Vous avez sûrement entendu l'histoire du pape et du vieux juif. C'est une histoire qu'on raconte et qui est racontée avec plusieurs variantes. L'histoire va à peu près comme ceci. Il y a longtemps, il y a très longtemps, le pape a décidé que les juifs devaient tous sortir de la ville de Rome. Ils avaient 3 jours pour quitter la ville. Seulement, les juifs ont tellement réagi fort à cet ordre que le pape s'est dit, il faut peut-être quand même que j'adoucisse un petit peu la chose. Alors il leur a proposé un arrangement. Il dit, voilà, je vous propose qu'on fasse un débat. Vous allez choisir parmi vous votre champion. Et puis, il va faire un débat avec moi. Si le pape gagne, les juifs doivent sortir. Si c'est le juif qui gagne, alors ils peuvent rester. Le problème, c'est que les juifs, tout d'un coup, se sont sentis intimidés. Les rabbins, les grands théologiens, aucun ne voulait affronter le pape dans cette discussion. Ils n'ont trouvé personne pour aller faire ce débat avec le pape. Ils n'ont trouvé qu'un vieux monsieur, un vieux juif, qui était nettoyeur. Et il a accepté ce débat avec le pape à une condition. C'est que le débat soit silencieux, muet, pas de parole. Curieusement, le pape a accepté. Et le grand jour est arrivé. Sur une grande estrade, on avait mis une table avec 2 chaises, une de chaque côté de la table. Le pape s'est installé dans une chaise et le vieux juif s'est installé dans l'autre. Et comme c'était un débat muet, pendant 1 minute au début, ils se sont regardés sans rien dire. Et puis finalement, le pape lui a montré le chiffre 3. Le vieux juif de l'autre côté lui a montré 1. Et le pape n'était pas content. Alors, un instant après, le pape a fait des ronds autour de sa tête, comme ça. Et le vieux juif, il a montré la terre avec son doigt. Le pape n'était vraiment pas content. Alors, il a sorti d'un sac qu'il avait avec lui, de l'hostie et du vin pour la messe. Le vieux juif, lui, a sorti une pomme. Le pape s'est levé furieux, il a dit « Ce juif est trop fort, ils peuvent rester ici. » Et il est parti en courant. Les cardinaux, les évêques ont couru derrière lui pour lui demander « Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas bien compris. » Alors le pape leur a expliqué et il a dit « Écoutez, je lui ai montré 3 pour lui rappeler qu'il y a la Trinité et que c'est important. Lui, il m'a montré 1 pour me dire qu'il y a un Dieu unique et que c'est le Dieu des chrétiens et des juifs. » Alors, à partir de là, je lui ai fait des ronds autour de ma tête pour lui montrer que j'ai une autorité qui vient de Dieu dans le monde. Et lui, il a montré le sol pour me rappeler que je suis mortel et que je vais mourir un jour. Alors finalement, je lui ai sorti le pain et le vin pour lui rappeler que nous pouvons être pardonnés. Lui, il m'a sorti la pomme pour me rappeler qu'il y a le péché originel qui demeure. Ce juif vraiment est terrible. Pendant qu'ils étaient en train de discuter, les rabbins, les théologiens, ont été voir leur ami nettoyeur et lui ont dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as fait pour gagner ce débat ?» Le vieux juif a dit « Écoutez, j'ai rien compris. Il m'a montré 3 pour me dire qu'on avait 3 jours pour quitter Rome. Je lui ai montré 1 pour lui dire qu'il n'y avait pas un seul de nous qui allait sortir d'ici. » Ensuite, il a fait des ronds en l'air pour me dire qu'il fallait qu'on parte dans toute la terre. Je lui ai dit, on ne va jamais sortir d'ici. Finalement, il a sorti son lunch. Moi, j'ai pris le mien. Morale de l'histoire, tout est une question d'interprétation. Et c'est ainsi d'ailleurs que beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui se cachent pour ne pas croire. On leur présente les Écritures et ils disent « Oh, mais c'est une question d'interprétation. » Beaucoup de chrétiens essayent de passer à côté de l'engagement en disant « Les uns interprètent d'une manière, les autres interprètent d'une autre. De toute façon, il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs. » Et ils oublient cependant que dans l'Évangile, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » une question d'interprétation. Nous pouvons avoir une bonne interprétation des textes bibliques, mais nous pouvons aussi en faire une mauvaise application. C'est ce qui est arrivé dans l'histoire chrétienne à plusieurs reprises, où des gens ont bien interprété la prophétie, mais en ont fait une mauvaise application. Je crains que nous fassions aujourd'hui, à bien des égards, la même erreur. Nous comprenons que les Écritures nous avertissent concernant les signes des temps, et nous lisons les signes des temps, mais je crains que nous en fassions une application abusive parfois. Par exemple, nous reconnaissons dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 24 ce chapitre rempli de signes des temps. Un de ces signes que Jésus donne, c'est le fait que la guerre, les bruits de guerre vont redoubler à la fin des temps. Ainsi, quand une guerre éclate, nous pensons « Ah, c'est un signe des temps ». Lorsque la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu, un regain d'études de prophéties s'est fait sentir dans l'Église et beaucoup de gens ont dit « Voilà, c'est probablement la dernière guerre ». Mais la Deuxième Guerre mondiale est passée, Jésus n'est pas revenu. En 1991, il y a eu la guerre du Golfe, une guerre un peu particulière, et Saddam Hussein avait dit « Ce sera la mère des batailles ». Et certains chrétiens ont pensé « Oh, ça sent Armageddon, peut-être que c'est la fin ». La guerre du Golfe est passée, Jésus n'est pas revenu. Les crises économiques sont aussi parmi les signes des temps. Et lorsque la fameuse crise économique s'est déclenchée en 1930, beaucoup ont pensé « C'est la dernière ». La crise économique est passée et Jésus n'est pas revenu. Alors plusieurs chrétiens se sont découragés en disant « C'est toute une question d'interprétation ». Il y a, je crois, cependant une solution qui consiste à aller chercher nos informations dans les Écritures, à tenir compte du contexte qui nous est donné et à tenir compte de toutes les Écritures. Nous ne pouvons pas sortir un élément des Écritures, le sortir de son contexte et n'utiliser que celui-là. Il faut utiliser toutes les Écritures et avoir une compréhension des événements, une compréhension de la prophétie, une compréhension du message biblique qui soit cohérent avec l'ensemble de la révélation biblique. Nous avons parfois cette attitude qu'avaient les contemporains de Jésus. Vous vous souvenez, un jour, les contemporains de Jésus se sont approchés de lui et lui ont demandé « Montre-nous un signe dans le ciel ». Et Jésus n'a pas voulu répondre à cette demande, parce qu'il voulait un signe extérieur à eux, un signe spectaculaire. Il y avait plein de signes parmi eux, et il refusait de voir les signes qu'il y avait même en eux. C'est l'attitude, en fait, des Laodicéens, de ces gens de l'église de Laodicée dont nous parlerons dans un instant. La dernière lettre que Jésus adresse à la dernière église, des gens qui voient les signes partout, qui se réjouissent de la fin, qui savent tout, qui attendent que le monde tombe en ruine pour pouvoir leur dire « je vous l'avais bien dit ». Nous avons cette facilité pour voir les signes qui nous entourent, les signes comme la guerre, les crises économiques, les choses extraordinaires. Est-ce que nous avons la capacité de voir les signes plus simples, moins visibles peut-être, mais qui sont en nous, parmi nous. Bien entendu, les guerres, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles, les crises économiques sont des signes des temps. Pas vraiment en eux-mêmes, parce qu'ils ont eu lieu tout au long de l'histoire, mais ils sont des signes dans leur redoublement, dans leur intensité particulière à la fin des temps. Ils sont sans aucun doute des signes. Mais voir ces signes-là ne suffit pas, il y a d'autres signes que Jésus avait mentionné dans les Écritures et qui nous concerne. Il est temps, je crois, que nous puissions regarder et voir les signes qui nous concernent. Pas seulement ces signes extérieurs à nous, autrement dit, ces signes qui ne nous impliquent pas. Vous vous souvenez, lorsque Dieu parlait à Ézéchiel, le prophète, il lui disait « Tu seras un signe pour mon peuple ». Nous sommes invités à être nous aussi des signes. Il y a des signes dans notre vie. Est-ce que nous avons appris aussi à les regarder? Et ce matin, j'aimerais prendre quelques signes, trois seulement, que Jésus mentionne dans ce texte de Matthieu chapitre 24, auquel je vous invite à vous référer avec moi. Dans la première partie de ce chapitre, Jésus va mentionner plusieurs signes. Et nous avons l'habitude de relever ces signes extérieurs, ces signes spectaculaires. J'aimerais relever d'autres signes qui se trouvent dans le texte et que parfois nous avons tendance à oublier. Matthieu chapitre 24, j'aimerais lire à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Avez-vous remarqué ce premier signe que Jésus donne ? La séduction. Nous passons généralement rapidement aux signes suivants, qui en font partie, j'en conviens. Mais Jésus commence par leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Les faux Christ, les faux prophètes, la séduction, le monde d'aujourd'hui est devenu expert en séduction de toutes sortes. Séduction philosophique, séduction morale, séduction religieuse, séduction matérielle. Le monde est expert dans ce domaine. Et ça marche bien. Séduction religieuse, elles sont innombrables. On a l'impression que le monde entier est baigné dans la séduction religieuse. Permettez juste un exemple, un seul. En 2005, il y avait sous un pont de train à Chicago une fuite dans le système d'égout qui passait par là. Et l'eau qui coulait du système d'égout a fait une forme qui ressemblait à la Vierge Marie. En conséquence, des centaines de personnes sont venues faire un pèlerinage sous le pont parce que les égouts coulaient en forme de Vierge Marie. Si le monde court pour des choses pareilles, ce ne sera pas difficile à l'ennemi de le faire courir et tromper l'humanité. Séduction, c'est le premier signe que Jésus mentionne dans Matthieu 24. Et je me pose la question de savoir est-ce que nous pensons être prêts pour résister aux séductions du monde d'aujourd'hui. Écoutez ce paragraphe que je tire du livre « Tragédie des siècles » à la page 677. Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur. En diverses parties du monde, on verra paraître un personnage majestueux, auréolé d'une gloire éclatante. Son éclat dépassera tout ce que les yeux des mortels auront jamais contemplé. Ce cri de triomphe déchirera les airs. Le Christ est venu, le Christ est venu. Les foules se prosterneront devant lui pour l'adorer, tandis qu'il lèvera les mains pour les bénir. Il guérira les malades, puis en vertu de son autorité, ce faux Christ affirmera avoir transféré le sabbat au dimanche. Cette suprême séduction sera presque irrésistible. Et nous avons l'impression, parce que précisément nous avons compris dans les Écritures l'importance du sabbat, nous pensons peut-être être prêts à résister à des tentations pratiquement irrésistibles. Lorsque la majorité des gens y verra une révélation véritablement de Dieu, est-ce que nous serons capables de dire que c'est une révélation de l'ennemi ? Est-ce que nous pourrons être seuls à le dire ? Quand le monde entier va suivre ces instructions qui sont données du ciel, est-ce que nous serons à même de donner l'heure juste des Écritures et y résister ? Êtes-vous sûr que nous sommes capables de résister à la pression générale alors que tout le monde acclamera ce qu'il pense être d'origine divine ? Et pourtant, sans aller même jusque-là, aujourd'hui dans l'Église, on rencontre de temps en temps de ces personnes qui se présentent comme de grands intellectuels, des gens qui savent tout, et par leur arrogance, séduisent beaucoup de gens. Beaucoup de gens suivent parce qu'il y a là devant eux quelqu'un qui connaît, qui sait. Ou bien alors d'autres qui se présentent comme des réformateurs, qui savent ce qu'il faut faire, des gens qui vont remettre l'Église sur les rails. Combien de gens les suivent pour découvrir souvent trop tard que ces gens-là n'ont rien de plus que les autres ? Est-ce que le Seigneur nous a donné cette grâce de faire attention au premier des signes que lui-même a donné, que personne ne vous séduise. Un peu plus loin dans le texte, un autre signe qui nous concerne apparaît au verset 10, Matthieu 24, verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Le texte qui est traduit ici dans notre version par « plusieurs succomberont » dit en réalité « plusieurs vont trébucher, vont trouver un scandale, vont être scandalisés ». C'est le terme, c'est le sens du mot « scandaliser », »,« trébucher », »,« tomber ». Autrement dit, ils vont prendre ceci, cela ou une autre chose dans l'Église comme une occasion de chute, comme une occasion pour douter, comme une occasion pour rejeter l'Église et son enseignement, pour rejeter la vie chrétienne pratique. Vous savez, ceux qui sont dans l'Église aujourd'hui ne sont pas nécessairement ceux qui seront dans l'Église demain. Vous le savez, vous l'avez vu comme moi. Que ça vous soit arrivé ou que vous ayez vu d'autres le vivre, combien de fois nous trébuchons sur des petits cailloux dans notre chemin qui sont gros comme des têtes d'épingle. Il suffit parfois de vraiment peu de choses pour nous scandaliser, peu de choses pour nous faire tomber, peu de choses pour nous faire douter, peu de choses pour que nous soyons offensés, choqués, peu de choses pour que nous soyons dans le doute, peu de choses pour que nous soyons offusqués, offensés, fâchés. Écoutez ce paragraphe, tiré aussi de Tragédie des siècles, à la page 660. À l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, mais qui n'auront pas été sanctifiées par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. Des hommes capables et éloquents, qui s'étaient réjouis dans la vérité, se serviront de leurs talents pour circonvenir et détourner les âmes, et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Ceux qui sont dans l'Église aujourd'hui ne sont pas nécessairement ceux qui seront là demain. Et ce qui m'inquiète, c'est que ceux qui ne seront pas là demain sont parmi ceux qui se réjouissent dans la vérité aujourd'hui. Et qui utilisent leur talent au service de l'Église, mais qui demain l'utiliseront contre l'Église, contre la parole de Dieu. Alors je me pose la question, au-delà des tremblements de terre, au-delà des catastrophes naturelles, au-delà des guerres et des signes que l'on décrit dans Matthieu 24, est-ce que j'ai été sensible à ce signe que Jésus présente? Combien m'en faut-il à moi pour être scandalisé? Combien m'en faut-il sur le chemin de ma vie chrétienne pour trébucher, pour tomber, pour douter de l'Église, de Dieu, de sa parole, de tout? Il y a un autre signe dans le chapitre 24 de Matthieu, parmi tous les signes que Jésus donne, qui nous concerne et qui se trouve un petit peu plus loin, toujours dans Matthieu chapitre 24 au verset 12, un signe particulier que nous retrouvons à d'autres endroits dans les Écritures d'ailleurs. Matthieu chapitre 24, verset 12, il est écrit ceci. « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Ce passage nous rappelle quelque chose que nous connaissons dans l'Apocalypse. Ce texte que je voudrais lire quand même avec vous, parce qu'il est important dans Apocalypse au chapitre 3, au verset 17. Vous vous souvenez comment Jésus, dans les lettres envoyées aux églises, rappelle en particulier combien il est dangereux d'avoir perdu son premier amour. Mais dans la dernière lettre, il rappelle à quel point il est dangereux de se refroidir. Apocalypse chapitre 3, au verset 17, il est dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Et dans le verset précédent, il dit « Puisses-tu être froid ou bouillant, mais par pitié, pas tiède. » L'amour du plus grand nombre, nous dit le texte, se refroidira. C'est cette attitude de tiédeur, cette attitude de satiété, cette attitude de celui qui finalement considère que tout est sous contrôle et que tout va bien, pas de problème. une sorte de paresse, s'installer dans une vie chrétienne qui roule, qui fonctionne. Cette propre justice, cette propre sainteté qui fait qu'on ne désire plus grand-chose d'autre parce qu'on a déjà tout reçu du Seigneur Jésus. On n'a besoin de rien d'autre. Tout va bien. Satisfait de soi, satisfait de ce que l'on connaît, et dans ce sens on n'a pas besoin d'en savoir plus, satisfait de ce que l'on a fait, et par conséquent on n'a pas besoin d'en faire plus. Et comme dit le texte, je n'ai besoin de rien. Donc personne ne peut m'offrir quoi que ce soit dont je puisse avoir besoin. Et Dieu non plus, parce que j'ai déjà reçu tout de lui. Vous vous souvenez, c'était exactement l'attitude que l'on trouvait dans le peuple d'Israël autrefois. Ce n'est pas spécifique aux Laodicéens, comme on le voit dans la lettre. Regardez par exemple dans le livre du prophète Osée, au chapitre 12. Osée, chapitre 12, au verset 9, il est écrit ceci. Et Éphraïm dit, « À la vérité, je me suis enrichi. J'ai acquis la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. » C'est la même attitude que les Laodicéens. Tout va bien. Je suis bien, j'ai bien fait, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai plus qu'à attendre le retour de Jésus qui vient me chercher. Il y a dans les textes bibliques de nombreux signes des temps. Et remarquez, ce sont les signes les plus spectaculaires qui frappent notre attention. Les tremblements de terre, les catastrophes naturelles, les crises économiques. Ces choses qui font tomber nos maisons, qui font écrouler nos comptes en banque. C'est d'abord ces signes-là que nous voyons. J'aimerais vous inviter à regarder ces autres signes que Jésus a mis dans ce texte pour attirer notre attention parce qu'ils concernent nous-mêmes, notre vie personnelle. Que personne ne vous séduise. Est-ce que nous sommes prêts à faire face à l'impact de la séduction que le monde exerce sur nous aujourd'hui? Que ce soit le matérialisme ou toutes les idées religieuses qui circulent à l'intérieur même du christianisme. Est-ce que nous sommes prêts à perdre notre confiance pour un rien du tout dans l'Église? À nous scandaliser, à trébucher sur un caillou de rien du tout? Est-ce que nous nous sentons satisfaits de nous-mêmes, n'ayant besoin de plus rien? Si nous sentons et si nous voyons ces signes des temps en nous, nous sommes invités à prendre à notre compte cette interpellation de Jésus, dans le même discours, mais rapporté par l'évangéliste Luc, au chapitre 21 et au verset 36. Jésus, conscient que ses disciples seront peut-être plus attentifs aux signes spectaculaires qu'à ceux qui les concernent, Jésus disait « Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Amen.